Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface et sur la boutique en ligne lescapricesdethérèse.com. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé. Aujourd'hui, deux coups de cœur cinéma. Le premier consacré à L'Homme d'Argile qui sortira mercredi dans les salles avec sa réalisatrice Anaïs Télen et Raphaël Thierry, son comédien principal, qui seront avec nous dans une poignée de secondes. Nos coups de cœur télé cette semaine, vous l'avez découvert il y a deux semaines dans L'Amour et dans le Pré, les portraits de cette nouvelle saison. On a déjà notre chouchou, le saunier de la Tremblade en Charente-Maritime, Brice, sera notre invité. Nous serons également en ligne avec Annie Dupéré qui viendra nous parler du téléfilm Mort du berger qui sera diffusé demain soir sur France 3. Et puis on aura également le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Michel Tinivelli pour le grand final de Rivière perdue où il nous attend bon nombre de surprises. Et puis en fin d'émission, deuxième coup de cœur ciné. Il vient tout juste de sortir dans les salles depuis mercredi dernier. Ça s'appelle Si proche du soleil. Sa productrice Elena Cosson ainsi que le réalisateur mais aussi les comédiens Christophe Favre et Quentin Santarelli seront avec nous pour terminer l'émission. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore une fois aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma, mercredi dans les salles, ça s'appelle L'Homme d'Argile avec Anaïs Télen, la réalisatrice qui est justement avec nous. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
Merci d'être là. Et on a Raphaël Théry, que vous avez peut-être vu justement en novembre dernier dans Polar Park sur Arte. Raphaël Théry est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux. L'Homme d'Argile raconte l'histoire de Raphaël. Bizarre, Raphaël, quand même, on a gardé le même prénom, c'est déjà beaucoup. Où les jours se suivent, se ressemblent, il chasse les taupes, il s'amuse un peu avec la postière, on va y revenir. Et puis, il a aussi une passion, la cornemuse. Et puis, jusqu'au moment où il est gardien d'un manoir, jusqu'au moment où l'héritière du manoir va faire son retour sous les traits d'Emmanuel de Vos. Voilà un peu pour planter le décor de cette histoire. Anaïs, comment est venue l'idée, en tout cas, du scénario et de l'histoire que vous avez voulu réaliser là?
Alors, l'idée principale et l'inspiration principale, elle est assise juste à côté de moi, puisque c'est Raphaël Thierry qui a été vraiment au tout départ de ce film et de mon inspiration de ce film. En fait, on a tourné ensemble trois de mes courts-métrages. Et moi, j'en avais pas assez, et je crois que Raphaël non plus. Et donc voilà, on s'est lancé dans cette aventure de l'homme d'argile tous les deux. Alors il faut savoir que, eh bien, il y a des choses du personnage qui appartiennent à Raphaël Thierry, l'acteur, et puis des choses qui appartiennent, on va dire, plus à la fiction et à la dramaturgie. Mais voilà comment est née l'histoire. Et après, sur l'histoire elle-même, elle s'inspire de plusieurs choses. On va dire que c'est une revisitation de La Belle et la Bête, une revisitation du mythe du golem, le tout dans un univers de contes, mais qui n'est pas dénué d'humour.
Ah, c'est vrai que le personnage de Raphaël, il en impose, il y a quelque chose de très physique justement chez ce personnage aussi, Raphaël. Alors quels sont les points communs entre Raphaël et Raphaël alors que nous dévoiler à demi-mot Anaïs?
Eh bien, l'idée certainement de départ, c'était de la rencontre de deux personnes qui ne se seraient certainement jamais rencontrées, car appartenant à des milieux sociaux différents, et de plus chacune de ces personnes-là dans un domaine artistique particulier, puisque lui joue de la cornemuse, elle est sculptrice. Ça fait transparaître ce film ce qu'est le regard sur l'autre. Et c'est à partir de cet instant-là où ces deux personnes se sont observées que quelque chose naît, qui nous amène certainement sur une piste qui ne sera pas ce qu'on attend, mais que le regard a forcé leur rapprochement.
L'art est très présent, justement, dans cette histoire aussi, Anaïs, du coup, que ça soit par le domaine d'Emmanuel Devos ou celui de Raphaël.
Absolument. Alors, comme je disais, ce film, L'Homme d'Argile, est un conte. Et donc, comme dans tous les contes, les deux personnages viennent de milieux sociaux très différents. Souvent, c'est la petite bergère amoureuse du prince. Bon, et bien là, c'est le gardien amoureux de l'artiste. L'endroit où ils se rencontrent, c'est fondamentalement la création et l'art. Parce que je suis persuadée, c'est dans la création que toutes les barrières sociales tombent et que la vraie rencontre est possible. Et puis, la création dans ce film-là raconte aussi une chose, c'est une façon de survivre, c'est une façon de se reconstruire, et dans le cas de Raphaël, c'est une façon de se voir différemment.
Raphaël, on évoquait un peu La Belle et la Bête, justement, pour L'Homme d'Argile. Il y a aussi chez ce personnage quelque chose de très doux, dans ses gestes, dans l'approche qu'il a avec le personnage d'Emmanuel Devos, mais il y a quelque chose aussi de très doux malgré tout.
Oui, ce personnage est habité par la tendresse, ne serait-ce que le rapport avec sa mère, où il est toujours très tendre avec sa mère, qui, là, il ne l'est pas forcément toujours.
On va en parler parce qu'elle est exceptionnelle, la comédienne aussi.
Je crois que c'est ça aussi qui fait peut-être aussi que la sculptrice porte un regard particulier sur ce personnage-là. Il y a jamais d'énervement, d'agacement. Il y a de la profondeur dans ce personnage. Lui, il a sa passion. Lui, c'est de chasser les taupes, mais c'est pour le bien. C'est pas pour tuer des taupes. C'est pour rendre le château plus beau, même s'il sait que personne n'y vient. Il a cette obsession terrible de ces taupes. Et puis, il a un quotidien très classique, ancré dans la solitude. Et l'arrivée de Garance va certainement perturber sa vie.
Oui, ça va perturber un petit peu le quotidien. On va écouter la bande-annonce, L'Homme d'Argile, ça sort mercredi au cinéma, et puis on revient juste après avec vous deux. À tout de suite.
Raphaël ?
Oui ?
Garance Cheptel, vous pouvez m'ouvrir le manoir, s'il vous plaît ?
Pour qu'elle se prend celle-là ? C'est les patrons, hein ? Je demande la main au début, puis tout le branle qui passe.
Elle était comment quand elle était petite ?
Oh, elle était un peu spéciale, hein.
Son travail consiste à faire de sa vie une œuvre.
Toutes ces fioles, ça représente tous mes chagrins depuis 1992.
Ça tient une famille, hein.
Quand je vous regarde, j'ai l'impression de me promener. Vous êtes comme un paysage.
Allez, notre spécial L'Homme d'Argile aujourd'hui avec Anaïs Télène et Raphaël Thierry qui sont avec nous. On va parler de la maman, parce que le casting pour la maman, mais il est tellement plus vrai que nature. Mais la comédienne, elle doit avoir un caractère mais tempétueux, non ?
Alors, il faut savoir que Mireille Pitot, qui a 93 ans, n'avait jamais joué au cinéma avant. Elle a travaillé toute sa vie en tant que couturière à l'usine à Dijon. Et j'ai fait sa rencontre lors d'un casting sauvage qu'on a fait avec le directeur de casting, Christophe Gomez. Et alors, c'est une personne qui est absolument pas semblable au personnage qu'elle joue. C'est une femme qui est extrêmement sympathique et douce, mais absolument énergique. Elle habite, par exemple, au 4e étage à son âge, et alors elle fait les courses de sa voisine du dessus, et elle me dit, tu comprends, c'est une vieille dame, elle a 88 ans. Et alors, voilà, et Mireille est formidable. Elle a eu au festival Jean Carmet, qui se trouve à Moulins, le prix du meilleur second rôle, ce qui, à son âge, m'a, moi, personnellement, beaucoup touchée, parce que je me suis dit, voilà, il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose.
Il y a une relation très forte entre la maman justement et Raphaël et sa mère hein, dans le film.
Oui, mais je crois que dès la première rencontre chez Mireille, d'ailleurs qu'au 6e étage, pas 4e, sans ascenseur. Oui, je crois qu'il s'est passé tout de suite quelque chose. Bon, le fait que nous sommes de la même région, peut-être y fait, sa façon de parler me rappelait terriblement ma mère qui parlait exactement de la même façon, avec les mêmes répliques toutes faites et qui des fois sont un peu hargneuses, un peu dures, mais prononcées de cette façon-là, nous font plutôt éclater de rire. Et rapidement, je crois qu'il s'est passé quelque chose tout de suite entre elle et moi. On s'est senti bien comme s'il y avait une évidence. On devait la rencontrer, je crois.
Et puis alors, la postière a aussi un personnage par entière. C'est elle qui amène vraiment ses touches de comédie aussi hein, dans ce conte, Anaïs. Et c'est Marie-Christine hein, qui joue ce rôle-là qu'on est habitué à voir souvent dans des seconds rôles et beaucoup aussi à la télévision. C'est un visage connu des spectateurs.
Oui, Marie-Christine Horry, c'est une comédienne extraordinaire, donc que j'ai eu la chance de rencontrer exactement 3 jours avant qu'on parte en tournage, parce qu'on avait fait beaucoup de casting pour ce rôle, et comme les actrices n'avaient que les séquences de la postière, souvent elles étaient un peu gênées, elles refusaient de jouer, parce que c'est vrai que décorrélé du scénario dans son entier, ce qu'elle a à jouer est assez étrange, mais enfin en tout cas voilà. Peut-être un peu gênant.
On imagine la comédienne qui arrive à un casting et dit bon voilà tu vas jouer que nu dans les bois. Bon ça peut au premier abord ça peut voilà vous il y aura quelques surprises quand même.
Marie-Christine avait eu cette réaction au tout début en disant elle voit les scènes et elle dit non mais moi c'est bon je passe pas ce casting c'est hors de question. Puis nous avec le directeur de casting on continue la journée et à 20h elle revient frapper à la porte de la production en disant oui mais non mais en fait j'ai lu le scénario je voudrais passer le casting. Et donc bon bah voilà ça s'est fait comme ça et 3 jours et c'était tant mieux parce que 3 jours après on commençait le tournage donc c'était bien qu'elle intègre l'équipe et après bah non Marie-Christine elle a donné une couleur à ce personnage absolument merveilleux parce que bah, Marie-Christine elle a une façon de poser sa voix une corporalité tout à fait singulière et j'avais vraiment besoin que le personnage de la factrice ait ce sens du rythme parce que c'est vraiment elle qui est le vecteur de la comédie du rire et de la légèreté dans L'Homme d'Argile.
Je pense aussi que ce fameux rituel coquin qui les rassemble est vraiment quelque chose qui est ancré aussi dans une façon de vivre en milieu rural. Ça, c'est moi qui vis en milieu rural, c'est ce genre de choses qu'on connaît parfaitement bien et ça reste tout à fait naturel dans le film. C'est pas qu'il y a rien de choquant ou de surprenant.
Et c'était aussi l'idée, souvent quand on parle de jeux, et quand on les traite au cinéma, de jeux SM et tout, c'est toujours un peu dans la souffrance, un petit peu sombre et tout. Et c'était aussi d'offrir une vision de ce genre de jeu-là, bah, tout à fait joyeuse, lumineuse, entre adultes consentants et pas du tout.
Et drôle. Et drôle aussi parce que c'est justement ça, voilà, qui est important. C'est, ça ressent aussi une certaine solitude quand même chez ces personnages-là et qui, du coup, bah, essayent de vaincre cette solitude. C'est un peu deux âmes esselées, hein, que ça soit la postière quelque part ou le personnage de Raphaël. Il y a un personnage à part entière aussi quand même. Où il y a, c'est un décor magnifique, c'est le manoir quand même. Ça, c'est un personnage aussi, hein. Oui. Anaïs.
Bah, il était tout à fait constitutif de la dramaturgie en fait ce lieu parce que le film est quasiment à huis clos donc il participe complètement à ce qui se passe entre les personnages. Moi j'avais pour but quand on était en train de fabriquer le film que on puisse le ressentir presque comme une personne, qu'on puisse entendre ses souffles, qu'on puisse entendre ses bruits, enfin qu'il habite vraiment les choses. Et c'est un château avec un nom extraordinaire puisqu'il s'appelle le château du jeu. Alors quoi de mieux pour enfermer deux comédiens ensemble que le château du jeu. Et puis, enfin, il a vraiment participé, je dirais, non pas qu'à la forme du film et à l'esthétique, mais vraiment aussi au fond et à lui donner...
L'ambiance.
Oui, et vraiment une âme, parce qu'il est, il est la prolongation de l'histoire et de ce que vivent Garance et Raphaël ensemble.
Et je crois aussi que l'arrivée de Garance illumine le château, il l'allume, il l'éclaire. Et, c'est quand Garance, donc Emmanuelle De Vos, quand elle prend possession du château, le château qui reste le même, mais est soudainement transformé, quoi.
Et c'est même la relation qui est en train de se mettre en place entre Garance et Raphaël qui illumine petit à petit justement ce manoir.
Ah oui, c'est tout à fait ça. Mais bon, on peut pas trop dévoiler hein, non plus. Hein.
Eh, faut aller voir le film. On est bien d'accord. Mercredi dans les salles. On va terminer avec vos projets, Raphaël. Pour les mois à venir, qu'est-ce qui se prépare? Cinéma, télévision, théâtre?
Alors, des films en cours. Bon, j'étais sur un film à Saint-Nazaire pour Giovanni Allois, pour son deuxième long métrage, celui qui avait fait La Troisième Guerre. Et en février, je suis sur une série du réalisateur dont j'ai oublié le nom parce que c'est un Finlandais. Donc j'ai pas encore appris parfaitement le finlandais, le réalisateur de Compartiment numéro 6 qui adapte au cinéma pour une série, un roman de Leila Slimani. Et après il y a d'autres choses qui sont en gestation, donc et puis le succès de L'Homme d'Argile va faire que je vais avoir du travail jusqu'à la fin de ma vie,
hein. L'Homme d'Argile 2, voilà, exactement. Anaïs, dans 2 jours le film sort, on pense déjà à la suite, on prépare la suite, d'autres courts-métrages, un autre film, le rêve peut-être de continuer à faire vivre peut-être ces personnages.
Je vais pas. pas d'autres courts métrages, d'autres longs métrages. Oui, ça c'est sûr. Je suis actuellement en train d'écrire donc mon deuxième long métrage et j'ai également dans les tiroirs un projet de réalisation aux États-Unis. Donc voilà pour les actualités à venir.
Ok, on est calmé, c'est bon. Bon, merci en tout cas Naïs, merci Raphaël d'avoir été avec nous. L'âme d'argile, c'est mercredi dans les salles. À bientôt.
Eh bien, à bientôt. Rendez-vous dans les salles.
Eh ben, on se retrouve au cinéma.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé. Reviens dans un instant. À tout de suite. Le rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé. Votre talk show radio.
Oui, mes amis, nous allons vivre et vivre fort intensément, à ne regarder que devant, vivre à plus de 100 000%, en oubliant qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre sans condition, vivre vraiment, sans peut-être, sans oui, mais attends. À tout bouffer à pleines dents, à surtout ne jamais subir. Oui, mes amis, nous allons vivre les doigts en verre, la tête au vent, le regard fier, le feu au sang, le courage et le cœur battant, nous relevant malgré le pire. Oui, mes amis, nous allons vivre sans jamais perdre aucun moment, jamais laisser filer le temps, en se serrant, en s'embrassant, à oublier qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre, vivre sans regret, sans tourment, pliant peut-être mais résistant à toutes les tempêtes, les torrents, à toutes les critiques des spires. Oh, mes amis, nous allons vivre et vivre sans anesthésiant, sans être abrutis de calmant, vivre sans être de tous ces gens qui meurent bien avant de mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre, vivre toujours en se disant qu'à part l'amour, rien n'est urgent, le reste est vain, inconsistant, car un jour nous allons mourir. Mais d'ici là, nous allons vivre à tout donner, à tout venant, sans calculer, presque inconscient, car rien ne vaut que ces instants où l'on oublie qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre.
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé va s'intéresser à l'amour et dans le pré. C'est la dernière soirée des portraits de nos agriculteurs de cette nouvelle saison inédite. Et il y a deux semaines, eh bien, chères téléspectatrices, vous avez peut-être découvert Brice Saunier à la Tremblade du côté de la Charente-Maritime. Et Brice est en ligne avec nous. Bonjour Brice.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Saunier depuis pas très longtemps à la Tremblade et surtout le seul saunier dans ce bassin de la Seudre que les gens connaissent bien là-bas sur place. Mais d'abord, avant de faire connaissance avec ton métier, Brice, qu'est-ce qui t'a donné envie et le déclic de participer à l'Amour est dans le Pré ?
Ce qui m'a donné envie de participer à l'Amour est dans le Pré, donc je regardais quand même l'émission, pas tous les ans, mais j'ai regardé la saison 2023. Et puis finalement, j'ai plutôt compris que mon profil collait un peu aux agriculteurs de cette émission. Et donc voilà, ayant un célibat depuis quelques années maintenant, je me suis dit que ça serait peut-être le bon endroit pour régler cette histoire.
On dit souvent, et c'est souvent ce que les agriculteurs disent face à Karine Lemarchand, que c'est la solitude qui pèse le plus dans ce genre de situation.
Après la solitude elle m'a pas toujours pesé, franchement j'aime bien mener aussi des projets, j'ai un côté un peu solitaire,
ouais.
Mais là au bout d'un moment voilà, moi j'ai fait le tour de tout
la
ce qu'on
solitude.
Peut faire seul, et effectivement voilà, effectivement je commence à la ressentir, mais c'est assez récent, c'est pas forcément quelque chose qui me pesait depuis longtemps, mais là ces deux dernières années un peu plus.
Bon, alors, quels sont les critères que tu recherches? Si on devait lancer aussi un appel à la radio, puisqu'on rappelle, mesdames, que vous pouvez écrire à Brice via le site Sisplay. On n'écrit pas en direct, on le dit, hein. Le but, c'est que Brice, évidemment, fasse cette aventure. Donc, vous pouvez vous inscrire soit sur Sisplay ou à l'adresse, évidemment, que vous trouverez sur le site de Sisplay aussi. Quels sont tes critères?
Alors, donc, je cherche une fille qui est dans la trentaine. J'aimerais bien trouver une fille qui a quand même eu déjà un parcours professionnel, qui a déjà quand même fait des choses dans sa vie professionnelle, ouais. Et qui là décide de s'installer un peu plus durablement dans un endroit et dans une activité. En l'occurrence, parce que moi, je suis quand même bien installé dans l'activité agricole.
Bien sûr.
Après, si elle aime bien le métier d'agriculteur, c'est quand même mieux, parce que ça prend quand même une bonne partie de mon temps, de mon énergie et de mon esprit. Après, si elle a d'autres activités, pourquoi pas.
Faut qu'elle aime le beurre salé aussi.
Ah bah ouais, c'est sûr. Si elle fait un régime sans sel, ça va être compliqué, ouais.
Bon, tu sais que si c'est dans la trentaine, elle peut déjà aussi avoir peut-être un enfant ou deux. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te dérange ou pas, forcément?
Ça dépend quel type d'éducation et tout, mais non, ça ne dérange pas plus que ça, on pourra continuer la fratrie à étudier quand même. C'est pas un oui direct, ça dépend un peu du contexte.
Oui, c'est pas un non, mais c'est pas un oui non plus, tout dépend.
Bah ouais, voilà, exactement, faut quand même quel âge, quelle est la situation du père, enfin voilà, il y a quand même ça pose un peu plus de problématiques auxquelles on peut répondre, mais voilà, il y a quand même un point d'interrogation un petit peu là-dessus.
Dans tes rêves les plus fous, t'aimerais qu'elle travaille avec toi ou pas du tout?
Ah ouais, dans mon rêve le plus fou, ouais, tout à fait. Si elle se sent bien genre à la boutique et qu'elle aime faire du commerce du sel, moi j'adore le produire. Donc ouais, ça donne un caractère à une entreprise, ça lui donne une dimension un peu plus familiale. Moi j'adore
bien sûr
d'entreprise.
Mais oui. Eh bien écoutez, mesdames, si vous aimez l'air marin, si vous aimez les huîtres, vous serez bien accueillis dans cette région. Si voilà, le profil en tout cas de Brice vous a plu lors du portrait d'il y a 15 jours, si vous ne l'avez pas vu ce portrait, d'ailleurs vous pouvez le revoir sur Sisplay, bien évidemment en replay, vous pourrez découvrir en détail le portrait de Brice. On va parler un petit peu de ton métier aussi, Brice. Tu es arrivé donc il y a quelques années comme saunier à la Tremblade, t'es le seul aujourd'hui qui fait du sel. Comment t'as fait en tout cas pour arriver à construire un peu ce parc de sel au cœur de cette ville?
Ce qui m'a donné envie de produire du sel, donc j'avais déjà quelques copains producteurs de sel et constructeurs de marais salants à l'île de Ré, là où j'ai grandi.
Ouais.
Et du coup, quand je suis arrivé à la Tremblade, j'ai trouvé que tous les ingrédients étaient présents. Donc il y avait de l'argile, du soleil, des habitudes anciennes de production de sel. J'ai fait la formation à Guérande des producteurs de sel. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Je dirais, j'avais un entourage qui a pu me guider. Et je dirais, l'autre chose, c'est que je trouve que le système de production, donc c'est du sel solaire, c'est une technique qui nécessite aucune énergie extérieure. Alors moi, je trouve que cette technique, elle est très poétique, très belle. Et j'avais vraiment envie de passer du temps à utiliser cette technique du sel solaire.
Ah, c'est ça qui est absolument génial. C'est une activité qui te prend beaucoup de temps, évidemment, mais qui a aussi une certaine saisonnalité, du coup, puisque l'été te demande évidemment beaucoup de travail et d'entretien.
Bah ouais, on prépare tout le marais là pendant l'hiver. D'ailleurs, là, en ce moment, je suis en train de préparer le marais. Au printemps, on finit la préparation avec les derniers carreaux. Là, on va récolter le sel à nettoyer. Et à partir du mois de mai, faut qu'on soit prêt à produire du sel.
Ça a été un parcours du combattant.
Jusqu'en septembre.
Ou pas?
Je dirais que c'est même au-delà du parcours du combattant. Avec du recul, je pense que je me rendais pas du tout compte de la difficulté de ce qui m'attendait.
Ah ouais.
C'est un chantier colossal. Mais après, voilà, faut bien tenter des choses. Puis, il n'y a pas non plus 10 000 possibilités dans l'agriculture. À un moment donné, les premières années sont très, très difficiles. Ouais. Je ne savais pas que c'était à ce point chronophage, énergivore, mais plaisant. C'est aussi, je suis très content de ce que j'ai fait, mais je ne pensais pas que ça allait être aussi dur.
La satisfaction, il n'y a rien de tel, en tout cas que tu sois heureux aujourd'hui dans ce que tu fais. Il manque, voilà, cette petite étincelle supplémentaire dans ta vie, voilà, de trouver l'amour, la perle rare en tout cas. On espère que les auditrices et puis les spectatrices vont être nombreuses à t'écrire. Vous allez découvrir en tout cas au mois de mars à Paris certainement l'ouverture des courriers, hein. Je ne sais pas encore comment trop ça va se passer. Et puis les séjours qui seront tournés au printemps, on vous découvrira en tout cas avec ces parcours de vie incroyables en fin d'été comme d'habitude dans l'amour et dans le pré. Merci beaucoup Brice d'avoir été avec nous.
Avec plaisir, merci.
Et puis on se retrouve très très vite. Bonne chance évidemment à toi dans cette aventure. On va suivre puisque je t'annonce officiellement que dans Chute on écoute la télé, tu vas être notre candidat chouchou cette année. Donc on va suivre tout ça.
Ah, bah avec plaisir, merci beaucoup, merci.
À très vite, et puis L'amour est dans le pré, la suite et le final des portraits, c'est donc ce soir à 21h10 sur M6. Merci beaucoup Brice.
Merci, au revoir.
Ce soir sur M6.
Je suis célibataire depuis 2 ans maintenant.
Je rêverais d'aller à la Martinique accompagné d'une petite femme, main dans la main.
Il doit exister quelque part, le grand amour. J'ai envie de le vivre et je ferai tout pour rendre une femme heureuse.
Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Pascal ?
Bah, que je trouve ma femme de ma vie.
Donc gentille, attentionnée.
Et avec des cheveux.
Allez-y, lancez-vous. Ne laissez pas passer qui c'est l'amour de votre vie.
Il n'y a plus qu'à trouver.
Voilà.
L'amour est dans le pré. Nouvelle saison. Ce soir à 21h10 sur M6.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Mort d'un berger que vous allez pouvoir retrouver demain soir à 21h10 sur France 3 avec Annie Dupéré, notre fidèle de l'émission qui est de retour avec nous. Bonjour Annie.
Bonjour, bonjour.
Quel plaisir. Enchanté. Quel plaisir de se retrouver
d'abord,
encore
année,
une fois.
Bonne année à tous, si on a encore le temps de le
mais
dire.
Oui,
bonne
mais oui, mais tous. Oui, on est le 22 janvier, il nous reste encore, 9 jours pour oui, se souhaiter
absolument.
La bonne année. Et on vous souhaite plein de belles choses, en tout cas, pour cette année, 2024, hein, que
d'accord.
Ce seul en scène vous emmène partout sur nos routes de France.
Qu'on puisse aller
le
découvrir aussi. Ah oui, mes chers enfants,
oui.
J'espère, oui. Ça parle à beaucoup de gens, oui.
Et on en avait parlé, on va en reparler, hein, évidemment, d'ici quelques instants. On va d'abord commencer par Mort d'un berger qui va être diffusé donc demain soir
oui.
À 21h10 sur France 3 qui va nous emmener dans le massif du Sancy au cœur de l'Auvergne. C'est magnifique, vous y interprétez Marceline Dalmas qui va perdre son fils dans des conditions un peu on va dire tragiques évidemment. On pense qu'il est victime d'une attaque de loup, mais est-ce vraiment une attaque de loup? C'est ce qu'on va découvrir évidemment tout au long de ce film. Qu'est-ce qui vous a plu en tout cas, Annie, déjà dans ce rôle de Marceline?
Eh bien, d'abord ce qui m'a plu, c'est le metteur en scène. Parce que c'est le même metteur en scène avec lequel j'avais fait le film qui est passé il y a pas très longtemps, qui s'appelait Petit Ange, qui était une chose assez un suspense comme ça, à la Chabrol-Hitchcock, où je faisais quand même une psychopathe assez épouvantable.
Avec
et
Alexia
là, en
Barlier.
Fait, ce qui m'a plu, oui, c'est ça.
Ouais.
Et là, en fait, c'est un rôle aussi très atypique pour moi. Et j'adore ça, moi, passer de faire des rôles extrêmement différents. Et là, effectivement, c'est une paysanne assez dure, très désespérée, puisqu'elle est déjà veuve, et en plus, elle perd son fils unique. Et c'était marqué, c'est une paysanne très désespérée, mais qui ne montre pas ses sentiments. Et je me suis dit, là, il y a quand même un challenge.
Ouais.
Parce que elle montre pas ses sentiments, mais il faut quand même les voir. Donc c'était une chose assez difficile à faire. C'est un rôle sensible, c'est un beau rôle qui a une évolution magnifique. J'ai trouvé le scénario vraiment formidable. Donc voilà, comme c'était aussi le même metteur en scène que j'aime beaucoup, Christian Bonnet, qui est un excellent metteur en scène. Voilà, on a fait ce film là qui j'espère va réjouir les gens et en tout cas ça sera beau à regarder déjà.
Ah oui, les images sont absolument
magnifiques. Les paysages sont extraordinaires. Oui, oui.
Et on sent vraiment que Marceline, elle a plus rien à perdre. Hein. On sent vraiment une femme qui aujourd'hui veut venger coûte que coûte, évidemment, la mort de Patrick. Mais c'est vraiment une femme désespérée, mais qui a plus rien à perdre. On le sent, en tout cas, dans ce personnage.
Oui. Alors, faut pas trop dévoiler les choses pour les gens, parce qu'il y a une vraie évolution et une fin, finalement, assez surprenante comme ça. Je trouve
assez
que le scénario est vraiment très bien fait. Ouais. Et en tout cas, c'était passionnant à faire et passionnant à jouer avec des bons partenaires avec lesquels je pouvais me détendre le soir parce que quand on joue des trucs pareils, quand même assez chargés en émotions, on a intérêt à rire le soir. Voilà.
Et laissez-moi deviner, Annie, c'était Édouard Montout, le bout en train.
Oui, absolument.
Voilà.
J'ai découvert Édouard que je ne connaissais pas et il a quand même des réserves de bonne humeur absolument formidables.
Bon, ça a dû faire de beaux moments, en tout cas. Quel souvenir vous garderez de ce tournage, en tout cas, dans le massif, du Sancy?
Eh bien, les 3/4 d'heure de 4x4 qu'il fallait faire pour atteindre là-haut. Mais non, je ris. Ben voilà, les bons partenaires, un rôle extrêmement difficile à tenir et que j'étais quand même heureuse de faire. Et puis quelque chose qui se dit de très beau quand même sur les loups, sur la cohabitation des loups et des hommes qui n'est pas facile. Donc c'est un sujet sensible pour beaucoup de gens qui vivent dans des régions où le loup est protégé. Effectivement, parce que comment protéger les troupeaux d'un loup? Mais enfin, on apprend là d'une manière assez certaine que le loup n'attaque pas l'homme, en tout cas. Voilà.
Ouais, y a une
c'est une
bonne
morale. Chose à dire.
Ouais, voilà. Une très très belle morale, en tout cas, dans cette
très
histoire.
Très belle morale.
Une morale écologique
et puis,
aussi, et de sensibilisation aux animaux, c'est sûr.
Voilà, c'est ça. Et puis, effectivement, le parcours de Marceline et la fin est tout à fait surprenante Et c'est un très très beau personnage. Et moi, je trouve que c'est un très très beau film, à la fois des paysans, passionnants. Et alors, j'espère que les gens vont nous regarder. Voilà, ce serait bien.
Eh bien, j'en suis sûr. En plus, vous êtes bien entourés. On disait Édouard Montout et oui. Élie Rose Dalmé qui mènent l'enquête. Tous les deux, Élie Rose, moi, je l'ai découverte, effectivement, avec ce personnage toujours à fleur de peau et hypersensible.
Oui, aussi.
Évidemment, quand on est adjudant, ça peut être des fois compliqué.
Oui. Ça, c'est une chose quand même assez commune. Il y a quand même le flic et la fliquette, ça revient assez régulièrement en France, mais les gens aiment bien. C'est encore une histoire d'enquête, effectivement, et c'est vrai que c'est pratique pour un scénario, une enquête, parce que ça permet de faire avancer les choses avec les enquêteurs, effectivement.
Ouais, et puis les gens, les téléspectateurs aiment bien aussi s'amuser à essayer de découvrir.
De découvrir, de deviner en même temps que les personnages, voilà.
Et c'est souvent tellement bien mené que, on a du mal, à trouver le vrai, du fond.
Oui. Là, c'était assez subtil, quand même.
C'est clair. Soren Prévost, Nadia Fossier, Pascal Gimenez aussi, qui joue Patrick, d'ailleurs.
Oui.
Guillaume Arnault, Daphné Girard, il y a un très très joli casting, c'est vrai, en tout cas, à vos côtés. Mes chers enfants, aussi,
mes chers enfants, voilà, normalement, il y a une tournée qui s'organise. Alors, je sais pas trop où elle en est. J'espère qu'elle sera belle parce que c'est Mes chers enfants, mon seul en scène écrit par Jean Marbeuf, je précise. Ça s'appelle Mes chers enfants. Et alors, sous ce titre qui a l'air un peu gentillé, c'est vraiment un texte très très fort que j'ai vraiment tenu à défendre parce que il parle à beaucoup de gens. Et non seulement aux mamans, mais aux enfants. Il y a beaucoup de mères qui sont venues avec leurs filles ou leurs fils et qui ont aimé ce texte. C'est qu'est-ce qu'on fait de sa vie après la retraite? C'est une femme qui a consacré sa vie, qui était sans doute professeure de français. Elle a même écrit des romans et elle a tout lâché pour élever ses enfants. Et puis voilà, arrive 65 ans, la retraite, les enfants sont partis. Qu'est-ce qu'on fait de sa vie? Qu'est-ce qu'on fait de sa vie après 65 ans? Et là, cette femme-là comprend qu'elle est un poids pour eux parce qu'elle les attend tous les dimanches pour déjeuner. Et puis au bout d'un moment, elle se rend compte qu'elle est devenue une espèce d'obligation. Parce qu'elle attend qu'il continue à la faire vivre. Et elle s'échappe. Voilà. Elle prend une solution assez radicale. C'est-à-dire qu'elle prend le train, elle s'en va, elle dit « Mes enfants, dimanche prochain, ne venez pas, j'ai vendu l'appartement. » Et elle réinvente sa vie. Voilà.
C'est une femme
assez, quand même, assez, voilà. Et elle réinvente sa vie, et elle atterrit au bord de la mer. Et d'abord, c'est les vacances, et puis elle découvre l'état du monde avec les migrants. Voilà. Et donc, c'est un texte important qui dit des choses vraiment importantes sur notre monde, sur le fait de vieillir, de qu'est-ce qu'on fait de ces après 65 ans, quand même, quelquefois, il reste 30 ans à vivre. Qu'est-ce qu'on en fait? Si on veut pas, j'ai dit ça, c'est drôle, j'ai dit ça chez Michel Drucker quand il m'a invité, à son dimanche. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait de sa vie, si on veut pas rester le cul dans le canapé à regarder Drucker? alors, ça l'a fait rire.
Je m'en souviens. J'avoue, Annie, on se connaît quand même un petit peu maintenant, et j'avoue que avoir versé ma petite larme sur cette émission parce que c'était très émouvant de vous retrouver avec Sarah, avec votre fils aussi,
avec mes deux enfants.
C'était très très beau cette émission avec Michel Drucker, comme il sait si bien les faire d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'ils en ont pensé tous les deux, vos enfants, quand ils sont venus vous voir la première fois à ce spectacle?
Ils ont adoré.
Ils sont sensibilisés ou pas?
Ils sont ça. Non, pas eux vraiment, mais c'est vrai que ça. Là, elle est assez dure pour une nouvelle génération comme ça qui s'occupe que de son confort, que de ses trucs sur Internet et tout, et qui prend pas garde finalement à l'état du monde. C'est vrai que j'ai une voisine d'ailleurs qui m'a dit un jour une chose, je lui ai dit, mais tu es presque en train de me dire ce que je dis dans la pièce. Elle m'a dit, mon Dieu, mes enfants, nous, les 68ards, qui avons vécu 68, qui avons levé le poing comme ça pour la société, tout ça et tout, on a fait des enfants, mais hyper protégés, parce que le monde devient difficile, il faut absolument qu'ils aient une belle carrière, et tout ça, et moyennant quoi, elle me dit, j'ai deux égoïstes qui ne s'occupent de rien de ce qui se passe dans le monde, qui ne pensent qu'à leurs vacances, à leur confort. Et elle m'a dit d'un ton très grave, Annie, qu'est-ce qu'on a fait? Et je trouve ça extraordinaire. En fait, c'est le sujet de la pièce aussi. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que cette génération de 68ards a fait de ses enfants en voulant absolument qu'ils soient des grandes études, des machins, gagner beaucoup d'argent, avoir des... Mais qu'est-ce qu'on a fait? Au bout d'un moment, on a fait des gens qui ne s'occupent que de leurs pommes et qui ne s'occupent pas du monde du tout, quoi, qui se laissent mener comme ça par cette nouvelle société qu'on essaie de nous faire gober comme ça, de d'hypersurveillance, de tout sur Internet, de voilà, bon, voilà.
En tout cas,
ça parle de tout ça.
Mort d'un berger, en tout cas, ça c'est demain sur France 3 à 21h10. Et puis pour les fans de Catherine Beaumont, et ça c'est la bonne nouvelle aussi, sachez que sur la nouvelle plateforme TF1+, vous avez l'intégrale d'une famille formidable qui est en ligne.
Non.
Si vous avez envie, en tout cas, voilà, d'aller revivre ces 30 ans d'une famille formidable, et vous avez l'intégrale sur la plateforme TF1+, voilà, pour les fans, en tout cas de la série aussi, voilà, en ce moment.
Ok, formidable.
Merci beaucoup Annie, on se dit à bientôt.
Mais merci. À bientôt.
Et puis Mort d'un berger, c'est demain soir, 21h10 sur France 3. On écoute un petit extrait, c'est parti.
C'est vous qui l'avez trouvé ? Vous prenez leur déposition ?
Le capitaine.
J'espère que c'est pas vous qui nous portez la poisse, adjudant Rosier. À peine 15 jours que vous êtes ici, on a déjà un mort en pleine nature. C'est pas courant.
Ouais.
On a plutôt l'habitude d'intervenir sur les accidents de la route, maintien de l'ordre, aide à la personne.
Je suis désolé, capitaine.
Oh, faut pas. Patrick Dalmas. Un berger du coin, le mec... Enfin, le genre sans histoire, quoi.
Vous avez vu sa blessure au cou ?
Ouais.
On dirait une morsure ?
Oh non, c'est quand même pas une attaque de loup, ça, putain. C'est pas possible.
De loup ? Non, mais attendez, vous rigolez ?
Non, non, pas du tout. Il y en a par ici. Jusqu'à maintenant, ils se contentent d'égorger quelques brebis, mais... Oh, putain, si c'est un loup. Ça va foutre le feu à la vallée, ça, hein.
Allez, notre coup de cœur télé, c'est aussi pour Rivière perdue, le grand final jeudi à partir de 21h10 sur TF1. Et il est avec nous pour fêter ce final, même s'il a vécu de sacrées aventures dans ses 4 premiers épisodes. Jean-Michel Tinivelli, bonjour Jean-Michel.
Salut Alain, bonjour à tous, salut à tous, bonne année à tout le monde.
Voilà. Eh ben oui, bonne année à toi encore, hein, c'est encore le moment, hein, on est le 22 janvier aujourd'hui, on va découvrir la finale de cette série, Rivière perdue, ça nous tient en haleine pour découvrir évidemment le destin de ces deux jeunes filles, dont l'une a été retrouvée, on rappelle, dès le début de cette série, et cette quête de recherche évidemment pour découvrir ce qui s'est passé, où est la deuxième, eh bien continue et va se dénouer jeudi, mais on va revenir d'abord déjà sur ce qui t'a plu en premier, Jean-Michel, dans ce personnage et dans cette aventure.
Bah, alors déjà, c'est toujours très sympathique quand on est choisi, hein, quand on propose un rôle. Déjà, c'est sympathique. C'est le premier truc qui m'a plu, c'est qu'on m'appelle. Après, je me suis d'abord dit, mon Dieu, encore un flic. Mais bon, peut-être plus j'ai la réponse à tout ça, parce qu'un flic, oui, mais un homme différent. Donc voilà, heureusement qu'on n'est pas tous le même flic et le même homme. Il était à l'opposé de ce que je fais dans Simon Coleman.
Ah bah oui.
Je venais complètement à l'opposé, que j'avais terminé, qui est de papa poule, comédie. Sur France 2, et là d'ailleurs je redémarre 6 épisodes dans pas longtemps, mais il était vraiment à l'opposé, moi, et il y avait vraiment un challenge de le faire exister autrement, quoi. Voilà, donc c'est ce qui m'a plu, c'est de me dire, voilà, je vais dans un 52 minutes, un flic, mais différent, beaucoup plus lourd, à l'inverse de ce que je fais, de ce que j'ai pu faire auparavant, quoi. Donc ça a été un vrai pari pour moi.
Alors, on va pas déflorer, évidemment, pour ceux qui n'auraient pas vu les 4 premiers épisodes, parce que vous pouvez vous les rattraper sur TF1+, la nouvelle plateforme gratuite de TF1, et puis les 2 derniers qui seront diffusés jeudi. Toi, la seule chose qu'on peut dire, pour ceux qui ont vu, en tout cas, les 4 premiers, c'est que t'as participé aux 4 premiers, on ne te verra pas dans les 2 derniers. À moins d'une surprise.
Ah, c'est ça.
Hein? Voilà.
C'est ça.
C'est bien dit, hein?
Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, oui.
Bon, c'était la première fois que tu tournais avec Barbara?
C'est la première fois, ouais. Ouais. On se connaissait pas. En fait, en gros, dans toute la chorale d'acteurs, et ce qui m'a plu aussi, c'est le côté chorale, hein. Je veux dire, il y a eu tous ces acteurs aussi, cette nature, etc. Et première fois avec Barbara, ouais, c'est une très jolie rencontre. Je suis très heureux d'avoir tourné avec elle. Ça s'est bien répondu. C'est en télévision, on n'a pas trop le temps de faire connaissance. On n'est pas au théâtre, hein. On est devant faut très vite que ça fonctionne ou ça fonctionne pas, quoi. Et là, nos rapports ont été directement bam. Ça s'est bien passé dans le bon sens.
Les décors sont somptueux, hein, dans lesquels vous avez tourné, là. C'est d'une beauté.
C'est une très belle, c'est une très belle région. C'est un personnage à part entière, la nature, qui est très importante. C'est un thriller qui a un côté un peu américain, justement, parce qu'on enquête, on voit dérouler ce paysage, cette vallée, ses habitants. C'est aérien, c'est beau, et c'est somptueux. C'est un vrai rôle, c'est un vrai personnage. Chacun a son arche, quoi. Et la nature, on a une énorme part dans cette fiction.
Oui, vraiment. Parce que chaque épisode est vraiment centré sur un personnage, hein. C'était le cas d'Anna pour le premier, c'était le cas du personnage du papa Rémi, joué par Bruno de Brande, qui est incroyable aussi, parce que à tel point qu'on a cru dans le deuxième épisode, par exemple, il y a 2 semaines que c'était lui, hein, qui avait séquestré sa fille. C'est assez dingue. On nous emmène sur des fausses pistes et en même temps chaque épisode est centré comme ça sur un personnage.
Sur un personnage, ouais, effectivement, ouais. Ce qui est très intéressant dans cette série, c'est que chaque personnage a une arche. Il y a personne qui est lésé. j'ai envie de dire que même le petit chien Choupette a une arche, quoi. Enfin, tout le monde existe.
Ah bah oui, hein, le petit berger australien Nicolas Gobe, hein, Choupette, hein.
Tout le monde est servi, donc je trouve que non, c'est vraiment bien et c'est, ça fait plaisir aussi de. Je suppose il y a toutes les ficelles d'un bon thriller. Il y avait tout, il y a tout ce qu'il faut jusqu'aux deux derniers qu'on va avoir. Et c'est rare aussi, j'ai envie de dire, c'est, elle est classique cette série, mais il y a toutes les ficelles d'un bon thriller, d'un bon polar, d'un film d'aventure, un film d'action. Et il y a beaucoup d'émotions, et je veux dire, c'est pas plombé, c'est beaucoup solaire, c'est sur le renouveau, c'est de l'espoir. Tous ces gens qui se sont éteints à un moment donné, pendant toutes ces années, bam, la petite revient, où est la deuxième, et tout ça se réveille. Puis ça réveille aussi des querelles passées, etc. Mais c'est non, je pense qu'il y a tout pour qu'on termine correctement ces épisodes. En tout cas, moi, je pense que ça vaut le coup de les regarder, quoi.
Voilà. Eh ben, on va suivre ce dénouement Rivière Perdue, c'est jeudi à 21h10 sur TF1, les deux derniers épisodes. Et puis, si vous êtes impatient et que vous avez TF1 Plus Premium, vous avez déjà les deux derniers. Voilà, moi je dis ça, moi je dis rien. Mais en tout cas, voilà, si vous ne pouvez pas attendre, eh bien allez-y, c'est le moment de binge-watcher, comme on dit maintenant aujourd'hui. Jean-Michel, il y a Simon Coleman, bien sûr, évidemment, c'est un des gros cartons pour toi de France 2 et qui aujourd'hui va même prendre de l'ampleur parce qu'il y a un peu plus d'épisodes à tourner, je crois, en 2024 du coup.
Bah, il y en a encore un à diffuser très bientôt et on repart en tournage le 19 février, donc c'est reparti pour 6x52, on change de format, donc on passe en 52 minutes, on en tourne 6 et c'est reparti avec ma petite Smala. Mes petits copains, mes petits enfants.
Avec Flavie Péan, etc. On va retrouver tout le casting, évidemment.
Ouais. Je suis très content avec la réalisation Sandra Perrin et Nicolas Copin. Voilà, on reprend les mêmes, on recommence, on va essayer de faire encore mieux.
Et puis une question qu'on doit te poser, j'imagine, tous les jours, et surtout on a vu des rumeurs qui commençaient à se lancer, on a vu le retour de Section de Recherche pour un épisode événement, c'est également le retour de Clem, et je crois qu'il est question qu'Alice Nevers revienne, en tout cas que Fred Marquand revienne pour un épisode spécial inédit, pas un retour officiel comme ça de la série, mais peut-être pour un événement.
Je sais pas, elle a retrouvé la trace de Marquand.
On sait pas.
Bah, je sais pas, on verra. On sait rien, je sais pas.
T'es partant, toi, en tout cas?
Oui, y a tellement de gens qui nous ont suivis. Je m'ai quand même fini à 6 millions d'euros, 6 millions de personnes, et puis les autres, peut-être, qui ne connaissent pas cette série qu'on a, dans laquelle j'ai joué pendant une quinzaine d'années. S'ils viennent nous rejoindre pour une soirée, je pense que ce serait sympa de leur faire plaisir. En tout cas, oui, si ça se fait, je pense que je serai là, ou pas. Faut toujours un peu de mystère et de suspense, hein.
Ah, tu teases bien, c'est parfait.
Ça sent plutôt bon. Voilà.
Bah ouais, j'ai l'impression en tout cas que ça se prépare, ce grand retour très très attendu. En tout cas, ça c'est jeudi, c'est 21h10 sur TF1 Rivière Perdue, le grand final. Merci beaucoup Jean-Michel d'avoir été avec nous.
Merci Alain et à très très bientôt. Merci pour tout ce que tu fais pour la télévision et les comédiens. C'est chouette, c'est la fiction.
Merci
cool de
beaucoup.
Merci.
On t'embrasse et bye on bye. Te dit à très vite.
Merci, au revoir.
Ils ont retrouvé ta fille. Anna, ils ont retrouvé Anna.
Et Lucie, ma fille, elle est vivante.
Ça fait 5 ans qu'on attend. 5 ans qu'on espère.
On va la retrouver, M. Pérez.
Lucie Pérez n'est pas dans la voiture.
Bien reçu.
On a besoin de toi, Anna.
Je sais que c'est pas facile.
S'il vous plaît, ma fille sort de l'enfer. Anna est sortie de l'enfer, mais pas Lucie.
Pourquoi vous cherchez à entraver l'enquête?
Ces souvenirs, c'est la seule piste qu'on ait pour retrouver Lucie.
Allez !
Rivière Perdue, votre nouvelle série, prochainement sur TF1.
Allez, dans un instant, l'équipe du film Si proche du soleil qui nous rejoint avec Quentin Santarelli et Christophe Favre, ainsi que la productrice Elena Cosson. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite.
Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube
et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
tu me laisses au creux d'un mauvais détour. En ces moments où l'on teste la force de nos amours,
je garderai la blessure au fond.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé. Chute on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné s'appelle Si proche du soleil. Ça sort le 17 janvier dans les salles. On a aujourd'hui comédienne et productrice du film, notamment Elena Cosson, qui est avec nous. Bonjour Elena.
Bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous. Le héros de cette histoire, Quentin Santarelli, qui joue David. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous.
Merci d'être là, Benjamin Rancouleux. C'est le premier film qu'on met à l'honneur aujourd'hui. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Et puis, c'est un héros également, évidemment, un de vos héros d'Un si grand soleil. Et puis, à l'Abbé Pierre, dernièrement, au mois de novembre, au cinéma, il a tellement de projets pour 2024 qu'on va en parler, évidemment. Christophe Favre est notre invité. Bonjour, Christophe.
Bonjour.
Merci d'être là. Alors, Si proche du soleil, on est dans un film de science-fiction, sans effets spéciaux, avec un petit budget, mais avec une tension, une musique qui a l'art de vous baigner immédiatement dans l'aventure du personnage de David qui se réveille chaque matin dans une nouvelle vie et qui va devoir composer surtout avec, mais qui à un moment donné va tomber amoureux de l'une de ses vies. Comment faire pour ne pas en sortir, ou comment faire plutôt pour s'en sortir de ce cauchemar? C'est tout l'enjeu en tout cas du film, et un peu un fantasme en quelque sorte. Qui aurait jamais rêvé de se réveiller dans une autre vie des fois que la sienne quand ça va mal? Elena?
Bah, je pense que tout le monde, on rêve tous au bout d'un moment de se réveiller dans une vie parfaite, dans une vie de rêve, c'est évident. Mais après, est-ce qu'on a envie que ça se répète, ou est-ce qu'on a envie de savoir une vérité? Ça, c'est autre chose.
C'est ça l'enjeu du film, c'est soit la quête du vérité ou la sécurité en quelque sorte. C'est aussi ça que posent les questions. Benjamin, où est venue l'idée? Parce que je crois que c'est quand même un peu ton idée, hein, l'histoire.
Voilà, alors moi, l'idée m'est venue que depuis que j'ai 6-7 ans, j'ai des questions métaphysiques et existentielles. Par exemple, je me demandais si mes parents existaient réellement ou si c'était des pantins sans âme. J'ai toujours pas la réponse actuellement. Et voilà, donc je suis pas forcément sûr et certain que vous existiez en même réellement autour de la table, ou si vous êtes un rêve, je ne sais pas. Voilà, merci.
C'est ça, voilà. Est-ce qu'on est un rêve ou est-ce qu'on est la réalité? Et puis Quentin s'est fait embarquer dans cette histoire, et on a eu l'occasion de projeter le film en avant-première dans notre région, pour le coup en novembre dernier. Et la première chose qui m'a frappé, Quentin, c'est toutes les palettes que tu avais à jouer. C'est incroyable pour un comédien d'avoir autant de choses à jouer, parce qu'avec des vies différentes, des caractères différents, des vies différentes qui d'un seul coup se réveillent à toi. Et du coup, pour un comédien, c'est incroyable de jouer, d'avoir à jouer tout ça dans un seul film.
Ouais, c'est ce qu'on peut appeler des rôles cadeaux. Benjamin m'a fait confiance et je lui remercie énormément pour m'avoir permis d'élaborer et de structurer et de construire tout un personnage sur une aussi longue période, avec des palettes aussi larges et aussi riches que j'ai pu travailler, que j'ai pu viscéralement interpréter dans le personnage de David. Et c'est vrai que c'est pas forcément commun à tous les projets qu'on peut avoir. Parfois, si on prend la télévision, qui est un format donc un peu plus, c'est un format format donc assez précis, on n'a pas forcément le temps de s'enrichir ou de s'imprégner du personnage, comme là où sur une longue période l'évolution est possible et magique. Je suis parti d'une idée donc très claire du personnage de David et sur son interprétation, et j'ai vu qu'au bout de la première scène, en fait, tout est parti en mille morceaux pour arriver sur autre chose, où ça a été complètement déconstruit pour être reconstruit. J'ai appris, j'ai désappris le personnage avec Benjamin et sous sa direction. Ça a été un travail commun, ça a été un travail collectif avec tous les autres comédiens du film qui ont enrichi le film et qui m'ont enrichi aussi moi en tant qu'interprète du personnage de David, qui a évolué tout au long. Donc c'est une véritable aventure pour moi, et qui m'a donné une plus grande expérience, m'a donné une vision plus large de l'interprétation, de l'interprétariat, qui a été fantastique sur le personnage de David, et que je continue et que j'essaye d'élaborer dans les autres personnages, dans les autres projets que je peux avoir.
Moi, ce que j'aimais, on va rien dire évidemment de la fin, parce que la fin est très inattendue, c'est plein de surprises tout du long, ce film, mais je peux vous dire que la fin peut questionner chacun d'entre nous face à l'heure des choix. Et vous, quand vous irez voir les films, questionnez-vous pour savoir quel choix vous auriez fait, vous, à la place de David. Voilà, c'est tout ce qu'on va en dire, en tout cas. Voilà, vous verrez. Et puis le personnage de Christophe, qui est un peu un personnage charnière, qui va être un peu celui de la vérité.
Un personnage clé, oui. On peut pas trop en dire, pour pas trop spoiler, mais effectivement, il a cette possibilité de dire certaines choses qui vont, on va dire, éclairer, aider David. Je peux pas te dire beaucoup plus, sinon je vais spoiler. Voilà. Donc voilà, mais sinon parler du travail du rôle pour Benjamin, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Benjamin, quand il me l'a proposé, j'ai tout de suite adhéré au personnage et tout de suite adhéré à l'histoire, et entouré d'un merveilleux casting. Donc c'était pour moi une évidence d'aller dans ce film.
Un film, pour vous donner une idée, chers auditeurs, c'est 4 à 5 millions d'euros de budget pour un film cinéma. En moyenne, on est sur 2 millions d'euros pour un film de télévision à une heure de grande écoute, de prime time, comme on dit. Là, on est sur un film à 5-0, à moins de 100 000 euros. Comment on fait pour trouver des parades? Comment on fait pour trouver aujourd'hui la possibilité d'offrir au public ce spectacle de film que vous allez aller voir au cinéma sans que justement cette économie à toutes les échelles qui a été faite se voit à l'écran? Parce que ça ne se voit pas. On imagine à aucun moment, on peut imaginer ça, Benjamin.
Alors c'est vrai qu'il a fallu faire beaucoup de système D et faire pas mal, pour ma part, j'ai fait pas mal de postes, montage, cadrage, lumière, choses comme ça. Et avec
la musique. On va le souligner parce que tu as fait une musique mais incroyable et qui nous baigne tout de suite dans l'ambiance, et tu as su faire ça aussi.
Alors j'ai fait le sound design du film et j'ai fait une partie des musiques. Effectivement, et du coup voilà, ce qu'il faut faire, c'est essayer de s'entourer d'une équipe qui croit vraiment au projet, et que chaque personne qui est dans le film ait plusieurs casquettes et aide vraiment à la vision que j'avais et qu'on avait avec Quentin et avec les autres acteurs. Il faut vraiment que tout le monde aille dans le même sens, et la débrouille, et le fait d'avoir une caméra moins chère que ce qui se fait ailleurs, mais tout en rattrapant par l'éclairage ou par la choix des objectifs, ou attendre la bonne heure pour que le soleil soit assez bas pour faire des jolies lumières. Voilà, c'est vraiment de la débrouille, et c'est vraiment ça.
Attendre que la neige soit tombée pour aller faire quelques scènes. C'est un an de tournage, 75 jours qui ont été répartis sur un an. Et on attend effectivement tout ce qui est naturel qui nous tombe dessus pour pouvoir justement faire de belles images. C'est peut-être aussi ça, hein, la clé du succès, plutôt que de faire une fausse neige, plutôt que de faire de la fausse pluie, plutôt que faire du faux vent. Et c'est peut-être ça, aujourd'hui, le futur en tout cas du cinéma français, et d'essayer de faire de jolis films, comme vous allez le voir, le 17 janvier. Ça s'appelle « Si proche du soleil ». On va écouter la bande-annonce et on revient juste après avec vous. À tout de suite.
Oh, t'as fait la fête toute la nuit ou quoi?
Si je comprends bien, vous êtes en train de m'expliquer que demain matin, vous allez vous réveiller dans un autre monde.
C'est ça.
Il n'y a aucun espoir.
Tu vas me prendre pour une folle. Mais j'ai l'impression que t'es pas le David que je connais.
Vas-y, casse-toi, ça te coupe ce coup de mes couilles, là.
Tous ces gens, à chaque fois que je me réveille, est-ce qu'ils sont effacés?
Arrête de me prendre pour une conne, tu veux pas juste me dire ce qui se passe?
C'est que toi, je veux pas te perdre.
Allez, de retour, notre spécial si proche du soleil. Le film sort le 17 janvier dans les salles. On a toute une partie de l'équipe avec nous aujourd'hui. Elena Cosson, Quentin Santarelli. On a Benjamin Rancourt, le réalisateur, et Christophe Favre qui sont là. Elena, productrice, mais aussi comédienne, hein, puisque, en fait, on va te voir apparaître dans la deuxième vie de David dans le film.
Oui.
Apparition furtive, mais remarquée.
Oui, j'ai la chance aussi de pouvoir interpréter ce rôle. Une des réveils de David, une des vies qu'il découvre tout au long du film. Pour moi, c'était aussi c'était une chance extraordinaire. On me demande de temps en temps, Elena, pourquoi tu jouais pas le rôle principal, parce que tu pouvais être le rôle principal aussi dans le film. T'es, en plus, t'es productrice, tu pourrais choisir, etc. Ben, moi, je dis, ben, en fait... tout le projet qu'on a fait, tout ce film, il est fait pour que le film il soit le meilleur de soi. Et en fait, pour une anecdote, ben, on a fait un casting pour mon casting pour le rôle principal, et tout simplement, je correspondais pas du tout à ce rôle. J'étais pas crédible en face du Quentin, et notre duo, enfin, ça matchait pas. C'est pour répondre à beaucoup de questions, parce que des fois, on dit, bah, ah oui, les producteurs, bah, ça veut dire que il peut aider à ce comédien, bah, non. Il y a le rôle à qui le comédien il doit correspondre parfaitement, et donc voilà, c'est pour ça.
Tu as fait passer un réalisme, une vérité pour le coup, et surtout le public avant quoi que ce soit. C'est ça qui est bien aussi, du coup ça se ressent dans le film, évidemment, avec Maïlys de Poncin qui est géniale,
hein. qui est vraiment parfaite et qui correspond à 100% à ce rôle. Je pense que c'est le choix était évident, et on est tous très contents d'avoir Maïlys dans le film.
Quentin, tu joues tout, on le disait dans le film, il y a quelques instants. Tu vas jouer la joie, la peine, tu joues l'amour, la dérive, un personnage vraiment à la dérive, qui se perd un peu dans les méandres de sa vie. Quelles ont été pour toi peut-être les scènes les plus compliquées à jouer, à interpréter, à te concentrer pour entrer dedans ?
On va plus parler de scènes à se concentrer plutôt que compliquées. C'était toutes les scènes du film ont été un réel plaisir à faire et à travailler avec les comédiens et avec Benjamin. Si on prendrait donc une scène assez importante ou une concentration aussi importante, ça serait la scène donc avec Christophe. Donc une scène clé, une scène très importante où on était trois dans cette scène. Et la complexité a été que pour une question donc aussi financière et aussi de pratique et aussi d'aisance pour le jeu, on a séparé donc cette scène en trois nuits, avec pour chaque nuit un chant, donc on filme donc l'acteur par nuit. Donc on a commencé par Christophe, on a ensuite fait Éléonore Aiguillon, qui est donc celle qui interprète donc sa fille, et après moi. Et on ne pouvait pas les faire revenir donc une seconde fois. Et ce qu'on a fait, c'était de jouer. Enfin, je devais me rappeler de l'émotion, de l'énergie, de la vérité qu'ils avaient donnée dans ce personnage pour le retranscrire alors qu'il n'était pas en face de moi. J'ai joué tout seul mes chants à moi, mon contre-chant, et j'étais face à un mur, ou c'était une plante, ou c'était peut-être toi, Benjamin, je sais plus trop.
Ouais, mur, plante, moi, ouais.
C'est pas, non, je crois pas, non, mais oui. Mais c'était, on était sur cette complexité-là, et avec une scène charnière, une scène, clé pour le film et pour l'explication. C'est peut-être celle-ci qui m'aurait demandé le plus de concentration et de pression pour être totalement crédible et digne aussi de cette scène qui était donc très très importante pour le long du film. Donc on pourrait peut-être parler de celle-là, mais sinon c'était juste un pur plaisir à chaque fois.
Benjamin, j'imagine la pression dans laquelle tu dois te être, ou peut-être tu dois te sentir, alors que le film va appartenir dans quelques jours au public. C'est souvent 4-5 années d'une vie, un film. Comment tu te sens là ?
Alors, niveau pression, ça va, mais c'est grâce aussi aux avant-premières où on a vu la réaction du public et qui est vraiment très bonne.
Ça t'a rassuré ?
Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, c'était plutôt avant les avant-premières que j'avais la pression, et maintenant qu'on a fait... plusieurs avant-premières qui se sont vraiment super bien passées, notamment à Royan et dans la région Charente, et certaines à Paris, etc. Voilà, du coup ça m'a vraiment rassuré. Du coup là, j'ai pas vraiment de pression par rapport à ça, et j'ai vraiment hâte que les gens puissent le voir.
Tu imagines que tu vas avoir certainement des gens qui vont venir te dire comment t'as pu faire un film comme ça avec si peu d'argent. Tu vas devenir un modèle là.
Bah, moi, j'avais déjà fait quelques masterclass avec des étudiants. moi-même ayant fait une école de cinéma à l'époque, et c'est ce que je dis à chaque fois. Il faut s'inspirer même parfois des certains youtubeurs, tout ça, qui font avec peu de moyens, ils font un peu tout eux-mêmes. Et même si si au final plus tard, quand on a plus de budget, on laisse certains postes comme le montage ou le cadrage à d'autres, au moins le fait de l'avoir fait tout seul à l'époque, même en école ou sur YouTube, ça permet de savoir diriger les gens quand plus tard on prendra des gens pour exécuter certains postes comme le montage, le cadrage et tout ça. Donc moi je trouve que c'est une bonne école d'apprendre à faire avec peu de budget, et voilà.
Début 2024 très riche pour toi, mon cher Christophe. Iris et les hommes depuis quelques jours au cinéma. Là, si proche du soleil, le 17 janvier, il y a du théâtre. Et là, si vous avez envie de voir un voisin nu incarné par Christophe Fabre, c'est le moment ou jamais. Je vois Quentin qui rigole beaucoup à cette rien qu'à l'idée, à l'image qui vient de venir dans sa tête.
Oui, oui, l'imaginaire peut faire fantasmer parfois. Je comprends Quentin, mais bien malheureusement, vous ne me verrez pas nu sur cette pièce. Je dis pas pour autant que vous me verrez nu ailleurs. Mais oui, oui, l'année 2024 s'annonce très très bien. L'année 23 a été très très bien aussi. Voilà, avec plein de films, plein de choses. Donc voilà. Et tu voulais savoir autre chose peut-être?
Oui, savoir s'il y avait d'autres choses. Non, parce que je crois que tu pars en Bulgarie aussi tourner pour Netflix.
Oui, tout à fait. Ah oui, alors l'année 24 commence avec un tournage à Prague. Plus exactement, et c'est une série Netflix dans laquelle je joue en Napoléon III, je joue en langue allemande en étant dirigeant en anglais. C'est une série de Netflix allemande, et c'est l'impératrice, la série The Empress.
Voilà. Et que nous on verra en français, ça va être un beau bordel. On va découvrir ça très bientôt. Tu vas te doubler, j'espère.
J'espère, puisque je le joue en allemand, je joue en anglais, et j'ai aussi une séquence en français. Donc, ma voix sera dans les trois langues. Donc, bien sûr, on va faire en sorte de pouvoir faire les doublages dans les autres langues.
Début 2024, c'est le retour d'une série qui t'a vu aussi éclore un peu, Quentin, Plus belle la vie. Donc, on imagine que même si cette page est fermée pour toi et est définitivement terminée, il y a plein de projets qui arrivent avec un rôle comme celui-là. Je crois que tu vas être dans l'adaptation de De Gaulle, d'Antonin Baudry, à qui l'on doit déjà Le Chant du Loup. Ça, c'est un bel événement qui t'attend pour fin 2024, je crois, à sortir.
Oui, c'est ça. Alors, il est encore en tournage en 2024 et il sortira probablement, parce qu'en fait, ils l'ont fait donc en deux parties, donc ça sera fin 2024. Et sinon, je vais m'attaquer à la réalisation, enfin que j'ai déjà faite sur plusieurs courts-métrages. Et l'année prochaine, j'entame aussi donc le tournage avec ma compagne, avec laquelle on a créé l'association qui nous permet donc de faire ces projets, et qu'on va faire donc le début 2024 à destination des festivals au cours de l'année et jusqu'à ce qu'on puisse, enfin au maximum en tout cas.
Si, Quentin, Benjamin, le film là va dans quelques jours en salle, mais tu travailles déjà sur l'adaptation, je crois, avec ta compagne en BD.
C'est ça, avec Victoria Radao, qui est graphiste, qui est ma compagne aussi. On travaille sur l'adaptation en bande dessinée du film Si proche du soleil, et ça va nous permettre justement, par rapport au budget dont on parlait tout à l'heure, de faire certaines séquences différemment, de rajouter des choses qui n'auraient pas été possibles avec un budget réduit, bien que le film soit totalement exactement comme je le voulais. Mais en bande dessinée, forcément, on peut se permettre de faire des choses forcément encore plus incroyables. Donc ça peut être intéressant. Ça sera une autre vision. Ça sera assez différent quand même. Mais voilà. Donc les gens, je pense qu'ils pourront même voir le film et lire la BD. Ils découvriront des choses assez différentes.
Ils auront encore des surprises. Elena, tu travailles déjà, je crois, à la production d'un prochain film pour l'année prochaine ou l'année suivante, pour 2025.
Nous avons déjà deux projets en développement actuellement, de longs métrages. Et puis, avec Benjamin, on commence aussi à réfléchir sur notre deuxième long métrage commun qu'on va produire ensemble.
En attendant, on va découvrir Si proche du soleil. C'est le 17 janvier dans les salles, un petit peu partout en France. Merci d'avoir été avec nous tous les quatre. On vous dit à très bientôt. Merci. Merci Christophe.
Ben, merci à vous et à très vite. Je reviens quand même sur Le Voisin Nu, parce que du coup, tu m'as lancé, mais on n'a pas dit ce que c'était. C'est une pièce de Patrice Lecomte qui est jouée donc toute l'année 2024 dans beaucoup de villes en France avec Arnaud de Samer, Cyril Eldin et Pauline Lefebvre.
Wow, quel pro. Merci Benjamin.
Merci beaucoup.
Merci Quentin.
Merci beaucoup et à bientôt dans les salles.
Et à bientôt. Merci Elena également.
Merci beaucoup. 17 janvier au cinéma. On se revoit.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Ça sera l'événement avec Brigitte Si et Laetitia Casta qui seront nos invités exceptionnels pour la sortie du film Le Bonheur est pour demain. Gilles Perret également sera avec nous pour nous parler de La Ferme des Bertrands, son documentaire qui sort au cinéma. Raphaël Langlais et Camille Goudot seront avec nous pour le téléfilm Droit de regard. Et Chantal Latsou viendra également nous rejoindre. Ça va promettre, hein.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Hey, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Partagez un moment convivial et chaleureux en écoutant Chute, on écoute la télé avec Iruac, votre marque de boucherie charcuterie basque qui fête ses 50 ans de savoir-faire avec ses recettes savoureuses et typiques du Pays Basque et du Sud-Ouest. Retrouvez vos produits Iruac dans vos grandes surfaces. Toutes les infos sur iruac.fr.